Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
On commence avec quelques infos. Après des mois de crise du secteur viticole, plusieurs acteurs de la filière se sont réunis hier dans les locaux du CIVB. France Bleu Gironde parle de, je cite, 2h20 d'échange, cash et sans prise de bec, mais avec rien à l'arrivée. Autour de la table, vignerons, négociants, syndicats agricoles, grande distribution et autres services de l'État. Une première pour la viticulture, selon Alan Sichel, président du CIVB, qui s'exprimait sur France Bleu Gironde. Les nombreuses mobilisations de ce secteur visaient notamment à réclamer une juste rémunération de la part des négociants et de la grande distribution. Et ce point était à l'ordre du jour de la réunion au CIVB hier. Les patrons de la grande distribution, tous présents, n'ont pas voulu participer à la conférence de presse à l'issue des discussions. Bernard Fargue, président du Comité national des interprofessions du vin, assure néanmoins que le message est passé. Toujours sur France Bleu Gironde, Didier Cousinet, le porte-parole du collectif Viti 33, à l'origine de nombreuses mobilisations ces derniers mois, est moins optimiste. Il dit, je cite, « C'est une réunion où on attendait au moins une réponse. Je vais être honnête avec vous, on attendait que quelqu'un nous dise « Ah oui, on va faire un effort considérable, on va faire quelque chose, et aujourd'hui, on n'a rien. » Il ajoute que, je cite, « Les prix bas vont continuer jusqu'aux foires d'automne. C'est à partir de la récolte 2024 qu'on pourra peut-être voir une évolution notable sur les nouveaux cours du vin qui seront établis. Mais j'ai peur qu'entre-temps, il y ait de la casse. » Autre information, Sud-Ouest titre ce matin dans son journal « Bordeaux sur le podium des villes qui aiment les femmes ». On apprend que c'est le magazine Femmes Actuelles qui a dévoilé son palmarès. Apparemment, la ville de Bordeaux aurait sa place sur le podium grâce à son offre de soins, mais pâtirait de l'insécurité, ce qui lui ferait perdre des places au classement. Cette obsession sécuritaire mobilisée dans les médias a plusieurs conséquences. Il ne s'agit pas de nier le harcèlement et les agressions dans l'espace public, mais de questionner son ampleur dans l'ensemble des violences faites aux femmes et son instrumentalisation. Les violences dans l'espace public sont généralement le cheval de Troie raciste et xénophobe de l'extrême droite. Dans l'ouvrage « Le traitement médiatique des violences faites aux femmes, entre instrumentalisation et invisibilisation » de l'association Faire Face, Marie-Hélène Liebert rappelle que le harcèlement de rue s'inscrit dans un continuum des violences envers les femmes et ne sont qu'une des expressions plurielles et multiformes de ces violences. Elle identifie trois conséquences à cette focalisation de l'attention et de l'action sur les violences faites aux femmes dans l'espace public. La première, la mise en retrait des violences conjugales. La deuxième, les effets sur le sentiment d'insécurité et la mobilité des femmes. Et la troisième, l'alimentation de discours et politiques sécuritaires. Et tout de suite, dans notre plat de résistance, on revient sur les mobilisations féministes en cours à l'université Bordeaux-Montaigne. Vendredi 5 avril, sur le parvis de l'université Bordeaux-Montaigne. Les mobilisations pour réclamer une meilleure politique de gestion des violences sexistes et sexuelles de la part de la présidence de l'université se poursuivent. L'Assemblée générale féministe de Montaigne débute.
Est-ce qu'on vote Alors, du coup, pour le départ vers Sciences Po, pour prolonger l'AG là-bas et du coup interrompre cette réunion plus ou moins, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à la majorité, je crois. Let's go.
Arrivé à Sciences Po Bordeaux, 11 policiers étaient présents. Les étudiants et étudiantes de Montaigne ont appelé Sciences Po à rejoindre leur mobilisation pour que elles, eux aussi, puissent dénoncer de potentielles violences. Alors, je m'appelle Marie, je suis en L1 Histoire. Et donc là, il y a une AG qui allait débuter sur le parvis de Montaigne. Et finalement, vous vous êtes rendue à Sciences Po. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?
Parce qu'on a voté spontanément d'aller manifester contre la venue de la ministre antiféministe. Donc ça a été très spontané. On est juste parti en mode on vote et puis on y va pour voir ce qui se passe. Et on s'est dit que ça pourrait permettre de faire passer notre lutte aux gens de Sciences Po qui ont eu pas mal de problèmes avec Sciences Po, etc. Donc on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée d'y aller et là on rentre à la fac finir l'AG.
Donc vous avez écrit un tract notamment pour diffuser le message et pour que les autres étudiants et étudiantes des autres universités vous rejoignent. Dans le tract, il est notamment question, comme revendication principale, d'une cellule de veille indépendante de la présidence. Est-ce que tu peux m'expliquer là comment elle fonctionne actuellement, cette cellule ?
La cellule de veille, le problème c'est qu'il y a des membres de la présidence qui sont dedans et il n'y a pas de garantie qu'il y ait une neutralité de la part de ces gens-là quand les cas d'affaires de VSS concernent des gens, notamment de la présidence et du corps professoral, et on aimerait qu'il n'y ait plus les politiques de la présidence dans la cellule de veille pour lui garantir une neutralité un peu plus forte que ce qu'elle a déjà. Et c'est pour ça qu'on a ça comme revendication.
Et là, concrètement, tu parles de neutralité. Comment ça se matérialise ? Enfin, c'est quoi la conséquence de qu'il y ait des membres de l'administration, de la présidence dans cette cellule ?
Personnellement, je ne sais pas parce que je ne suis pas au courant de toutes les affaires. Mais je sais que ça se caractérise par de la protection, notamment des membres, des membres du corps professoral ayant commis des VSS, et il y a une certaine protection. On reçoit des mails avec écrit tout ce que vous voyez dans les médias est faux, etc. Et donc il y a une certaine protection de la présidence vis-à-vis de ces personnes-là. Et c'est peut-être lié, plus ou moins, à le manque de neutralité de la cellule de VSS.
Et donc, qu'est-ce que souhaitent les étudiants et les étudiantes ? Qu'elle soit composée de qui, de quelle personne cette cellule, et qu'elle fonctionne comment ?
De professionnels déjà. Ce serait une des revendications qu'on porte le plus, c'est qu'on ait des professionnels qui soient dans cette cellule et qu'elle soit composée majoritairement de professionnels et non pas de membres qui n'ont pas d'expérience dans l'écoute, etc.
Quand tu parles de professionnels, qu'est-ce que ça regroupe par exemple ?
Professionnels de santé, professionnels de santé mentale également, professionnels de l'écoute tout simplement, comme le planning familial, etc.
Parce que là, actuellement, du coup, le personnel de cette cellule d'écoute n'est pas formé à recevoir, par exemple, des témoignages de personnes victimes, alors qu'il faut avoir une certaine formation en psychotraumatologie, ce genre de choses.
Alors, je ne sais pas si ils sont formés ou pas, mais en tout cas, on estime que leur formation n'est pas suffisante et qu'il faut vraiment des gens professionnels pour déjà recueillir les témoignages et pouvoir accompagner les victimes dans ce genre de cas. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. J'ai la donnée des gens qu'on ne connaît pas, enfin, qu'on n'est pas sûr qu'ils ont l'expérience.
Et donc, une dernière question. Mais donc, il y a eu plusieurs mobilisations, plusieurs AG encore la semaine dernière. Il y a certains témoignages qui ont émergé encore. Ça a libéré la parole
Je crois, oui. Il y a une camarade à moi qui est en train de réunir des témoignages. Et apparemment, il y en a plus qu'on se compensait.
Moi, je suis étudiante en archéologie à Bordeaux-Montaigne. Du coup, en archéologie, on a un professeur qui est accusé que ce soit a priori de harcèlement et de propos misogynes, quoi. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent, en fait, dans notre milieu, qui est un petit milieu qui fonctionne beaucoup au contact et sur lesquels on est amené à passer les étés en chantier, que ce soit avec nos professeurs ou des chercheurs, quoi, qui dirigent les chantiers. Et nous, on y va bénévolement, quoi, pour se former. Donc, on est formé à la fois en cours, mais à la fois l'été, on va passer des semaines entières à dormir en dortoir, quoi, même avec des professeurs. Donc, on a une proximité presque. C'est un petit milieu, même presque familial. Et des accusations comme ça, qu'elles soient fondées ou non, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, quoi, parce que des étudiantes sont amenées à passer plusieurs semaines avec un professeur, s'il y a la moindre accusation, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, quoi. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans notre milieu. Donc nous, on a écrit un communiqué là-dessus et on l'a fait tourner dans notre milieu par des associations comme Pays Tatruel, qui est une association qui est interne à l'archéologie, une sorte de MeToo en fait, interne à l'archéologie. Donc c'est pour dire que s'il y a des associations de ce type qui existent rien que dans notre milieu, c'est que c'est quelque chose de récurrent. Et du coup, on a fait appel à ça et globalement, on s'est rejoint à la mobilisation quand on a appris qu'en philosophie, en département de philosophie, il y avait également des affaires qui faisaient le lien, quoi, et qu'en fait, il y avait un problème globalement au niveau de l'université, au niveau de la présidence, quoi.
Donc tu me dis que c'est un problème récurrent en archéologie. L'archéologie, c'est quand même un secteur un petit peu de niche. J'imagine que c'est assez fermé, que généralement les opportunités professionnelles, elles viennent aussi de la continuité de nos études, des profs un peu peut-être. Du coup, qu'est-ce que ça implique tout ça, que certains profs soient accusés pour les opportunités professionnelles après pour la suite ?
Oui, c'est un milieu qui est précaire déjà. Et on sait que les plus précaires, c'est toujours les femmes. Et un milieu qui peut, comme on travaille sur les chantiers, on travaille un travail de chantier à la pioche, à la pelle, qui peut être assez masculiniste, quoi. C'est toute une question sur lesquelles il faut évoluer en archéologie.
Et donc, parmi ce qui est dénoncé pour le professeur de philosophie, pour le professeur en archéologie, c'est qu'ils ont été suspendus de manière temporaire. Donc là, le prof de philo est toujours suspendu pour une durée d'un an. Le prof d'archéologie a été suspendu, mais il est revenu en cours. Est-ce que tu peux revenir sur ces différentes suspensions ?
C'est ça. Le prof d'archéologie, il a été suspendu une première fois en décembre l'année dernière. Sachant que des accusations qui remontent à il y a plus longtemps que ça. Je ne sais pas à peu près à quel moment la cellule a vraiment été saisie. Mais ça fait longtemps que c'est su, quoi. Il a été suspendu jusqu'en juin de l'année dernière, en fait. Et à la fin de l'année scolaire, on a compris qu'il serait amené à revenir à la rentrée de septembre, sachant que le dossier était encore ouvert. Il y a le communiqué, etc., qui a permis qu'il soit a priori resuspendu à la rentrée 2024, du coup, de cette rentrée-là scolaire. Cette suspension, elle n'a pas duré très longtemps parce qu'il a fait appel pour diffamation, qu'il a gagné, puis il est revenu. Donc actuellement, on a cours avec lui. Il donne cours à la fac, mais le dossier est encore ouvert. Ce qui amène à des situations un peu de gêne, quoi, parce que personne ne sait comment vraiment se positionner. Tout le monde le vit mal, quoi. tout le monde le vit mal, que ça soit les étudiants ou que ça soit forcément lui qui du coup vit un certain isolement. Tout le monde le vit mal, c'est très mal géré. Il est amené à recroiser des victimes à lui potentiellement. Donc ça, c'est une question qui n'est pas prise en charge aussi. Et on a reçu cette semaine, juste hier là en fait, tous les étudiants en archéologie ont reçu un mail de la présidence qui menaçait d'une amende de 12 000 euros pour diffamation si jamais ça remontait à la présidence qu'on avait mentionné l'affaire quoi, et si au plus en fait il nous de le traiter de violeur quoi, enfin de l'accuser de viol quoi. Et ça, c'est vraiment la grande menace. La présidence directement nous a envoyé ce mail, et elle a envoyé en fait pas à la promo. C'est pas adressé à la promo, c'est adressé à chaque étudiant. C'est un mail par étudiant adressé à chaque étudiant. Ce qui fait que chaque étudiant a reçu et s'est dit, est-ce que ça me vise moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Est-ce que j'ai eu un propos déplacé en cours vis-à-vis du prof? Est-ce que c'est quand j'ai été mal à l'aise que j'ai refusé de passer au tableau? Est-ce que c'est parce que je participe pas à son cours parce que je suis mal à l'aise, etc.? C'est un sentiment en fait qu'on a d'insécurité. Et est-ce que mon insécurité, elle m'a trahi? Et elle peut m'amener à ce que la présidence appelle à ce que me menace quoi, d'une amende de 12 000 euros. Quoi.
Comment est-ce que vous l'avez reçu ce message, et comment est-ce que vous le recevez venant de la présidence quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une menace. C'est une menace et c'est des accusations qui... Alors et c'est vraiment de l'impunité sur le fait que nous, on nous met dans une situation d'insécurité. On n'est pas... à même de faire justice nous-mêmes. Nous, on veut juste aller en cours, quoi, et on se retrouve dans une situation où on est en complète insécurité, on n'est pas tenu au courant. Tout ce qu'on nous dit, c'est que si on propose, on parle, que si on pose des questions, si on... Voilà, qu'on a intérêt à fermer nos gueules, quoi, et aller en cours, et notre insécurité, elle n'est pas prise en compte, et nos questions, on n'a pas à les poser, quoi, il faut qu'on se taise, quoi. C'est une menace juste. Puis c'est ça depuis le début, en fait. Déjà, le fait qu'il y ait une cellule de veille sur la fac, alors que le prof allait être suspendu, alors que la cellule avait été prise et que le prof allait être suspendu, il y avait un gros tabou. Et en fait, moi, j'étais dans mes premières années de licence, je venais juste d'arriver à la fac, donc j'étais pas au courant de rien. Et en fait, on a appris que le prof était suspendu, et derrière, on a appris qu'il y avait une cellule, mais on n'a jamais été invité à témoigner, on n'a jamais été appelé. Il n'y a aucune communication, même sur quels sont nos droits. Déjà, on n'avait pas de communication sur nos droits. Ensuite, nous, on a demandé des réunions d'information, on en a eu une un an après. Donc, il a été suspendu en décembre 2022. Et vers décembre 2023, après de la mobilisation, après un communiqué qui est sorti, après une mobilisation vraiment, on a réussi à avoir les responsables du département et les responsables du FR qui ont organisé une réunion d'information entre midi et deux. On s'est retrouvés dans l'amphi. Donc les étudiants en archéologie et les responsables du FR et du département quoi, qui nous disent en fait on reçoit un mail qui descendrait a priori du rectorat qui nous dit la réunion doit être annulée, vous n'avez pas le droit. Donc ça descendait même du a priori du rectorat de la présidence, en tout cas de la présidence qui aurait contacté avec le rectorat quoi, et qui aurait interdit à nos responsables du FR, à nos responsables d'humanité de communiquer quoi que ce soit, sachant que le prof ça faisait plus d'un an quoi, ça faisait un an qu'il était suspendu, ça faisait plus d'un an. On était au courant de rien, il y a un vrai tabou quoi.
Et est-ce que t'as l'impression que c'est une prise de position quand même de l'université de réagir de cette sorte?
Ah oui, totalement, totalement. C'est une prise de position et qui joue en la défense en fait du professeur. Et s'il y avait rien à cacher, ça nous laisse croire au final qu'il est bien coupable, parce que s'il y avait rien à cacher, il cacherait rien. Là, bizarrement, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose à cacher. Ça met encore plus de l'insécurité. C'est voilà. Et puis ces menaces qui suivent quoi. C'est ouais. C'est...
Bonjour, je m'appelle Elisabeth Magne, j'étais enseignante ici jusqu'à il y a un an, je suis à la retraite et je suis militante bénévole au planning familial, militante active.
Alors, le planning familial accompagne certaines victimes de violences sexuelles, notamment de l'Université Bordeaux-Montaigne. Comment est-ce qu'elle les accompagne?
Alors, on a été contactés par ces victimes il y a un an environ elles sont venues au planning parce qu'elles se sentaient abandonnées ici par l'institution, en tout cas voilà, sans nouvelles de tout ce qui pouvait se passer, etc. Et donc elles sont venues vers nous comme toutes victimes, comme des victimes lambda, quoi, voilà. Et on les a renvoyées vers une structure qui s'appelle la Maison des Lavres, qui s'occupe plutôt du côté psychologique trauma, etc. Mais on les a gardés avec nous pour tout ce qui est accompagnement juridique, sur la procédure disciplinaire. On a beaucoup travaillé sur le recueil des informations, sur constituer un dossier pour qu'elles puissent se sentir légitimes dans leur démarche. On les a également accompagnées à Toulouse à mi-janvier lorsque s'est tenue la commission disciplinaire qui devait statuer sur cette procédure, puisque la procédure disciplinaire elle est totalement découplée du pénal qui lui tourne de son côté. Voilà. Donc sur cette procédure disciplinaire, on les a accompagnées physiquement et c'était nécessaire parce que elles étaient un peu livrées face à l'institution et à une parole où elles ne se reconnaissaient pas, en tout cas dont elles sentaient que leur témoignage pouvait être mis à mal. Et ça a été le cas par la commission disciplinaire. Voilà, ça a été rude, ça a été un moment difficile et c'était important qu'on soit à leur côté. Et on continue à les avoir de temps en temps en direct pour leur donner des nouvelles, connaître l'état de la mobilisation ici, qui est aussi une manière pour elles de se sentir légitimes dans la démarche qu'elles ont entreprise, qui a été une démarche longue, lourde, difficile, et qui continue à les impacter durablement pour un certain nombre d'entre elles.
Alors du coup, justement, l'université se rétorque, renvoie un petit peu la balle aussi sur la justice pénale en disant que des procédures sont en cours. Mais vous l'avez dit, il y a une procédure interne qui existe à l'université. Et pour l'affaire de Barbara Stiegler et d'un professeur de philosophie accusé de viol, l'université n'avait pas fait de saisine pour les témoignages des étudiantes qui dénonçaient ce même professeur également. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ?
Alors sur cette histoire de saisine, ça a été compliqué parce que nous on affirmait et les plaignantes étudiantes savaient bien qu'elles n'avaient pas été convoquées à Toulouse et elles l'ont été très tardivement et on pense, enfin en tout cas on sait que la saisine, le président de l'université avait d'abord uniquement saisi sur l'affaire Stiegler, qui est un cas finalement de profs entre eux et à l'extérieur de l'université, qui dédouanait le travail, enfin qui le dédouanait de prendre en compte les étudiantes. La saisine a été complétée très tardivement, le 13 octobre. Là-dessus on a un mail du ministère qui nous a répondu, parce qu'il y a eu aussi une interpellation des députés en séance, et donc ils nous ont répondu là-dessus, donc très très tardivement, et finalement la saisine initiale qui a tourné en octobre a été recomplétée par la session de janvier où les étudiantes ont pu donner leur avis. Donc on sait là-dessus que les choses n'ont pas été aussi clairement faites que la présidence veut le dire.
Et alors, une dernière question. Donc là, c'est la politique de gestion des violences sexistes et sexuelles qui est dénoncée. Comment est-ce que vous la définiriez, cette politique, et ça a quoi comme conséquence sur les victimes et les potentielles futures victimes aussi?
Cette cellule de veille, elle a été à minima, maltraitante à l'égard des victimes, je dirais à minima, par des délais qui se sont étirés très largement, même au-delà du temps de suspension administrative de l'enseignant, ce qui a posé des problèmes de gestion directement sur les emplois du temps de rentrée, etc. Donc elle est intervenue très, très tardivement. Et les conséquences, c'est qu'effectivement, il y a eu ce sentiment d'abandon que les victimes ont dénoncé. Elles ne seraient jamais venues au planning familial si le boulot avait été fait en interne de manière correcte. Et voilà, les accusations ici de la présidence qui vise à dire que le planning instrumentalise les étudiantes, c'est assez détestable, parce que je veux dire, elles n'ont pas besoin du planning pour se mobiliser et continuer le combat autour de cette histoire qui est un peu emblématique quand même d'un fonctionnement qui n'est pas dans les clous de ce qu'on pourrait attendre, avec une cellule qui est trop nombreuse, de gens pas assez formés, trop proches de la présidence, enfin tout ces choses qu'on avait déjà repérées depuis longtemps et qui se sont avérées effectivement être quelque chose qui dysfonctionnait, quoi, à terme.
Voilà, on vient d'entendre plusieurs personnes mobilisées à Montaigne pour une meilleure politique de gestion des violences sexistes et sexuelles de la part de la présidence. Et on vient d'apprendre que l'université Bordeaux-Montaigne est bloquée depuis ce matin par les étudiants et les étudiantes. Une assemblée générale féministe qui devait débuter à 12h30 doit être en cours sur le parvis. Et on va reparler de tout ça avec nos deux invités du jour, Manon et Julie. Bonjour à vous deux. Pardon.
Bonjour.
Ouais, j'avais pas allumé les micros. Donc vous êtes toutes les deux étudiantes et vous êtes aussi membres de l'asso Médusée. C'est une asso féministe intersectionnelle, on reviendra dessus. Et donc vous êtes invitées pour nous parler de votre asso et de votre festival, le festival Femmes, que vous organisez du 10 au 11 avril, donc à partir de demain. Donc je l'ai dit, vous êtes toutes les deux étudiantes à Sciences Po Bordeaux. Vous avez écouté le reportage qu'on vient de passer. Est-ce que vous avez des réactions suite à ces mobilisations, suite à ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Nous, ça fait totalement écho à des choses qui sont passées dans notre école. Donc il y a mention de Sciences Po. C'est en réaction à ça que l'asso elle s'est créée aussi.
Donc Sciences Po qui était aussi un mouvement MeToo en fait intra Sciences Po pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles.
Complètement, c'est exactement ça, c'est une vague de témoignages immense, une déferlante de témoignages sur les groupes Facebook interpromo qui a eu lieu il y a 3 ans à peu près.
En fait surtout ça s'est étendu du coup à tous les Sciences Po de France, mais en fait du coup de voir que la vague de témoignages elle se diffuse aujourd'hui de l'autre côté des rails d'ITRAM, du coup à la fac de Montaigne, ça prouve tout de même que c'est des témoignages qui arrivent pas tous en même temps, que rien que sur un campus où on est vraiment à 4 mètres les uns des autres, en fait, peut y avoir une omerta qui silencie toujours les victimes alors qu'il y a une libération de la parole qui se fait pas loin. Donc c'est un processus qui est quand même long à mettre en marche, qui demande énormément de travail de la part des militantes et militants et qui est dur à globaliser rien qu'à l'échelle d'un campus. Donc on peut s'imaginer à l'échelle d'un pays à quel point c'est compliqué. Et puis ça met aussi en relief le fait que c'est un problème qui est quand même généralisé à l'ensemble des corps universitaires, en fait, que ce soit à la fac, que ce soit à Sciences Po, que ce soit médecine. Enfin, l'ensemble des corps universitaires est phagocyté par les violences sexistes et sexuelles, par des affaires d'agression, de viol, pour parler crûment. Et c'est un problème qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Certes, c'est toujours aussi terrifiant, mais c'est une bonne chose que ça réapparaisse dans le débat.
Surtout que je rajoute que Sciences Po, c'était il y a 3 ans, donc ça a bouleversé une promo entière. Mais les nouvelles promos, faut qu'elles sachent que ça a existé, que ça s'est passé. Donc c'est bien qu'il y a eu une manif qui était venue jusqu'à nous. Et c'est bien que l'AG soit venue jusqu'à nous vendredi dernier, parce que les nouvelles promos doivent savoir ce qui s'est passé.
Et donc Julie, tu parlais d'Omerta pour parler de la gestion des violences sexistes et sexuelles à Sciences Po. C'est également ce qui est dénoncé à Montaigne, c'est l'Omerta de la part de la présidence. Comment ça s'est matérialisé à Sciences Po et comment est-ce que ça s'est solutionné aussi, si ça s'est solutionné?
À Sciences Po, c'était plus... alors, il y a eu surtout des déclarations, enfin des témoignages qui ont été faits envers des violences sexuelles intra-élèves, entre les élèves. Et en fait, là où l'impunité a persisté, c'était surtout dans le fait que la direction de Sciences Po était au courant de ces affaires-là et a refusé d'impliquer des sanctions réelles aux agresseurs, aux violeurs. Donc c'est en ce sens-là que l'impunité se perpétuait et qu'il y avait une omerta qui était... Enfin, la parole des victimes était d'autant plus silenciée. Depuis, il y a une cellule de veille et d'écoute qui a été mise en place. Après, on voit que toujours dans les affaires d'harcèlement, il y a eu beaucoup d'affaires d'harcèlement à Sciences Po cette année. En fait, les victimes de discrimination, qu'elles soient sexistes, sexuelles, raciales, classistes, elles existent et en fait, elles ne sont pas... Il n'y a pas de conséquences pour les agresseurs, il n'y a pas de conséquences pour les personnes. Donc c'est une omerta qui persiste auprès de toutes les personnes discriminées. Et ça comprend évidemment les femmes, les minorités de genre. Donc voilà. Mais après, ce qu'on voit aussi là où c'est silencieux, c'est que bah, y a quand même eu une intervention de la police, déjà pour déloger l'occupation qui était faite à Montaigne. Il y avait la police à Sciences Po, du coup, puisqu'il y avait la ministre qui était présente. Mais en fait, il y a quand même une réelle séparation qui a été effectuée par le corps policier, dans le sens où ils se sont vraiment mis entre les élèves de Sciences Po qui allaient en cours, qui étaient présents.